RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi la mise au point de la semaine. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La rubrique suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi, la mise au point de la semaine.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le gouvernement indonésien devrait résoudre le problème des droits de l'homme. Les intérêts des États-Unis en Asie et dans l'ASEAN sont devenus le principal facteur de l'accord des avions de combat F-16 en Indonésie et continuer. Le ministre de la Défense des États-Unis se rendra en Indonésie du 22 au 23 janvier. L'Indonésie et le Japon sont d'accord pour accélérer la construction du port Patimban. Le président de l'Indonésie se rendra au Sri Lanka. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien devrait être en mesure de résoudre le problème des droits de l'homme en appliquant la loi. Il a été déclaré par l'activiste des droits de l'homme Natalius Bigai à la voix de l'Indonésie à Jakarta récemment. Selon lui, l'application de la loi en Indonésie doit être maintenue. L'attente au président Jokowi est très élevée parce qu'avec son élection à la présidence, la possibilité de progrès et d'application des droits de l'homme peut être résolue, comme par exemple les questions des droits de l'homme liées aux politiques gouvernementales, telles que l'éducation, la santé, etc., y compris des problèmes majeurs des droits de l'homme, tels que les événements relatifs aux droits de l'homme qui n'ont pas encore été résolus. Selon Natalius Bigai, les communautés, les observateurs et les activistes des droits de l'homme continuent d'encourager le gouvernement à donner l'attention à la résolution des problèmes des droits de l'homme qui est devenu des tâches du gouvernement. Deux avions de combat F-16 du gouvernement des États-Unis sont arrivés à la base aérienne Iswahyudi Magetan Java Air jeudi 18 janvier. Le chasseur à réaction est l'envoi final d'un total de 24 unités d'avions F-16 en provenance des États-Unis. L'observateur militaire de l'Institut indonésien des sciences, M. Muhammad Nur Hasim, à la voix de l'Indonésie, à Jakarta samedi a déclaré que l'avion de chasse F-16 de l'aide des États-Unis faisait partie de la politique étrangère américaine qui considère les intérêts des États-Unis en Asie, y compris l'Indonésie. Une considération de la réouverture de la coopération militaire entre les États-Unis et l'Indonésie. Entre autres, l'Indonésie a changé. Du côté politique, je pense qu'il y a un changement important. Il y a un processus de consolidation démocratique, il y a des améliorations aux critères des droits de l'homme, etc. Et il y a aussi une opportunité de changer les constellations de la politique mondiale. Je pense que les intérêts américains en Asie et dans l'ASEAN sont également devenus l'un des facteurs pour lesquels le programme de F-16 est continué. Mohamed Nur Hasim a déclaré que la durabilité de l'air des avions de combat américains F-16 à l'Indonésie est également basée sur la considération politique à long terme dans la région. Selon lui, les États-Unis ont calculé la constellation de la politique antérieure et le rôle de l'Indonésie dans le domaine de la sécurité en Asie et l'ASEAN, y compris les problèmes politiques dans la mer de Chine méridionale et la montée en puissance de la Chine en tant qu'un nouveau pouvoir de l'économie et une nouvelle force dans le domaine militaire après l'effondrement de l'Union soviétique. Le ministre de la Défense des États-Unis se rendra en Indonésie du 22 au 23 janvier. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré à Jakarta que l'objectif principal de sa visite était d'accroître la coopération de la défense entre les deux pays et qu'il existait le cadre de coopération. Armanata mentionne plusieurs questions liées à la défense des deux pays qui seront discutées par le ministre américain de la Défense lors de sa visite en Indonésie, notamment la modernisation des principaux systèmes d'armes ou alutsista et la coopération dans la lutte contre le terrorisme. En outre, le gouvernement américain et indonésien discuteront également des efforts visant à renforcer la coopération dans le contexte Indo-Pacifique, à savoir la création d'une région Indo-Pacifique paisible, stable et prospère. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie et le Japon ont convenu d'accélérer l'achèvement du projet du port de Patimban à Subang dans l'ouest de Java, qui devrait être achevé l'année prochaine. Le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, après avoir accompagné le président Joko Widodo, a reçu la délégation de l'envoyé spécial du Premier ministre du Japon au palais présidentiel de Bogor. Java West récemment a déclaré que l'achèvement du projet de port de Patimban était très intensif. Selon le plan, le port de Patimban commencera à fonctionner en mars 2019, rapporté par Republika Online. L'opérateur est une combinaison entre l'Indonésie et le Japon, avec la part majoritaire de l'Indonésie, de sorte que plus tard, l'Indonésie peut déterminer le fonctionnement de l'entreprise. À l'invitation du président du Sri Lanka, Maithripala Sirisena, le président de l'Indonésie, Joko Widodo, fera une visite officielle au Sri Lanka du 24 au 25 janvier 2018. Le président Joko Widodo sera accueilli dans le bureau du secrétariat présidentiel mercredi 24 janvier. Il tiendra une réunion bilatérale avec le président Sirisena pour discuter de diverses questions qui préoccupent les deux pays. C'était le communiqué de presse de l'ambassade du Sri Lanka à Jakarta vendredi. Au cours de la visite, un certain nombre de protocoles d'accord seront signés par les deux chefs d'État. Le premier ministre Ranil Wickremesinghe s'entretiendra également avec le président Joko Widodo sur la coopération économique, commerciale et d'investissement jeudi 25 janvier. Le Sri Lanka et l'Indonésie ont établi une relation bilatérale il y a 65 ans. En 2016, le président Maithripala Sirisena a effectué une visite d'État en Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici la mise au point de la semaine. En titre, l'Université islamique internationale d'Indonésie, OIII, est destinée au monde entier.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Le président Joko Widodo, jeudi après-midi, le 18 janvier, a présidé une réunion limitée qui a discuté de la construction de l'Université islamique internationale d'Indonésie, ou III, à bureau présidentiel de Jakarta. À l'ouverture de la réunion, il a déclaré que la réglementation présidentielle de la construction de III a été signée il y a plus d'un an. À travers cette rencontre, il faudrait connaître les progrès de la construction. Il a également rappelé la raison pour laquelle OIII a été construit, bien que l'Indonésie ait de nombreuses universités similaires. Selon lui, l'université a été formée non seulement pour répondre aux besoins domestiques, mais pour répondre aux besoins de la communauté internationale. C'est pour renforcer le leadership de l'Indonésie dans le monde international, en particulier les musulmans internationaux. L'assistance d'OIII devrait être un haut droit pour apprendre la civilisation islamique par des étudiants dans le pays ou des étrangers. Le président a déclaré qu'il avait reçu des propositions de chefs d'État islamiques dans l'Organisation de la coopération islamique OCI sur l'importance de la construction de l'OIII. L'université peut être utilisée comme une arène pour l'échange d'étudiants. Selon les dirigeants de l'OCI, les jeunes Indonésiens qui sont envoyés au Moyen-Orient devraient étudier l'économie, le commerce ou le pétrole. Et le jeune de Moyen-Orient apprendra la religion de l'islam en Indonésie. Le ministre des Travaux publics et du logement populaire, Basuki Hadi Mulyono, a confirmé que la réunion a décidé que la construction de OIII sera mise en œuvre mi-2018. Le budget de construction s'élève à 3,9 trillions de roupias et provient du budget de l'État et de subventions d'autres pays. Le bâtiment aura un design futuriste. Le ministre Basuki a ajouté que le bâtiment de OIII ne prend que 20 à 30% de la superficie totale du complexe du campus qui a atteint 143 hectares. 70 et des espèces vertes qui peuvent être des parcs ou des forêts. Voilà la mise au point de la semaine.
Merci, cher ami, d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffuseur depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 21 janvier 1985, bombe du temple de Borobudur. Le lundi 21 janvier 1985, le bombardement a eu lieu au temple de Borobudur situé à Magelang, Java Central. Centaines d'explosions sont assez dévastatrices, détruisent 9 stupas dans le temple du patrimoine de la dynastie Sailendra. Cet incident terroriste est le deuxième incident terroriste djihadiste qui a frappé l'Indonésie après le détournement de l'avion Garuda DC-9 Voila Parlement bleu de Komando Jihad en 1981. Le cerveau de l'attentat est appelé Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Krishna, que l'enquêteur de la police l'appelle le cerveau de l'attentat. Le 21 janvier 1985, la bataille de Kesan. La bataille de Kesan est la bataille la plus controversée pendant la guerre du Vietnam. Cette guerre a commencé le 21 janvier 1968. Les marines américaines ont saisi une base qui était auparavant un poste appartenant à la France. À cette base, les troupes américaines ont patrouillé et lancé une attaque contre le mouvement de Ho Chi Minh au Laos. Les combats ont commencé avec un échange de tirs entre le Vietnam du Nord et l'Amérique, entre les deux collines au nord-ouest de Kesan. Le lendemain, les troupes nord-vietnamiennes ont envahi le village de Kesan. En utilisant des alliés à longue portée, ils ont également attaqué la base de Kesan. Pendant les 66 jours du siège, les avions américains ont largué 5000 bombes par jour, où l'explosion était équivalente à la bombe atomique Hiroshima au Japon. L'opération de Pegasus Kesan a commencé au début d'avril quand un Sewarli et un bataillon de Vietnam du Sud ont approché Kesan. Le siège s'est finalement arrêté le 6 avril lorsque les forces de cavalerie ont été reliées aux marines du Sud depuis l'aérodrome de Kesan. Les États-Unis ont également réclamé leur victoire parce qu'ils ont maintenu leur base du Vietnam du Nord. Le nombre de victimes officiellement dans la bataille de Kesan atteint de 205 de marines tués et plus de 1600 blessés. Le 21 janvier 2016, le président Joko Widodo a inauguré la construction du premier train rapide en Asie du Sud-Est. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a officiellement inauguré la construction du projet de train rapide Jakarta-Bandung, 21 janvier 2016 à Plantation de Maswati, dans le sous-district de Cikalong Wetan, le district de Bandung de l'Ouest, la province de l'Ouest de Java. Selon le président, le train rapide est un facteur de la vitesse qui peut rendre un pays peut gagner la concurrence car il a une vitesse dans la mobilité des biens et des personnes. La construction de ce projet de train rapide est également pour sensibiliser le public afin de pouvoir passer du transport privé au transport public. Le projet du train rapide a été construit par le Fonds d'investissement de consortium des entreprises publiques d'Indonésie et de Chine, de sorte qu'il n'implique pas le budget de l'État. Wang Yong, conseiller d'État de Chine, a déclaré que le train rapide de Jakarta-Bandung sera le premier train rapide en Asie du Sud-Est parce qu'il vient d'exister seulement en Indonésie. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Le stade principal Gelora Bung Karno répondra aux normes de la FIFA. Le stade principal de Bung Karno a été construit par le président Sukarno en 1960 et inauguré en 1962, a été rénové. Le plus grand stade de sport d'Asie du Sud-Est a été témoin silencieux de l'organisation des 4e Jeux asiatiques en 1962 et des Jeux Ganevo en 1963. Aujourd'hui, le stade principal de Gelora Bung Karno est préparé de devenir l'arène principale des Jeux Asiatiques 2018 à Jakarta et Palembang, Sumatera du Sud. La rénovation du stade principal répond aux normes internationales de la FIFA, ce qui est très important. Sa capacité est maintenant de 80 000 sièges avec une meilleure qualité de sièges, qui est divisée en deux catégories, sièges individuels et sièges pliants répondant à la norme accessibilité d'évacuation. Le président Joko Widodo, dans le compte Facebook, a déclaré que l'une des exigences de normes de sécurité de la FIFA est que si des conditions de chaos ou d'urgence surviennent, toutes les personnes à l'intérieur du stade doivent être capables de sortir du stade pendant 15 minutes après que le décret du stade a été déclaré. En outre, le stade est éclairé par 3500 lux. Il est trois fois plus lumineux qu'avant, mais il est 50% d'énergie électrique plus efficace car il utilise de LED, n'est plus de lampe conventionnelle. L'éclairage aux normes standards de la nécessité de télédiffusion de numérique professionnel et la photo de nouvelles internationales est une nécessité. L'autre principal source de l'herbe sur le terrain de football est une aire de standard international pour le football. C'est le Zoysia Matrela, équipé d'un arroseur automatique et un système drainage anti-inondation. Comme une forme d'inauguration du stade Gelora Bung Karno, on a organisé le premier match de football entre l'Indonésie et l'Islande, l'un des participants de la Coupe du Monde 2018 en Russie, 14 janvier 2018. Ceci est le premier match entre les pays après que la rénovation du stade principal de Gelora Bung Karno. Selon le président, l'état du stade principal a également été bien, comme on a vu lorsqu'il est utilisé par deux équipes d'Indonésie et d'Islande. Il exprimait ses remerciements à Dieu, car 7 mois avant la mise en œuvre des Jeux Asiatiques 2018, la rénovation du stade principal de Bung Karno a finalement été achevée et prête à être utilisée. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, on se retrouve encore dans la rubrique Magazine culturel. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à voyager à Ambon, la province des Moluques, pour profiter de l'un des culinaires dans cette ville. Donc restez toujours avec nous à la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Indonésie est un pays riche en épices, coutumes culturelles et culinaires. Chaque province de l'Indonésie a sa propre cuisine distinctive, y compris les Moluques. Il a une cuisine distinctive fabriquée à partir du café, c'est le café de Rarobang. Chaque région a sa propre spécialité, tant en termes de goût et de présentation du café. Une région qui probablement peu de gens connaissent a une présentation de café unique et délicieux, c'est les Moluques. Si le café est généralement composé des eaux et du sucre, dans certaines régions, le café est mélangé à d'autres ingrédients comme le café Rarobang de Ambon. En fait, pour faire du café de Rarobang est simple et facile. Les matériaux nécessaires sont les eaux, le sucre, les noix qui ont été rôties et hachées grossièrement, le gingembre, les clous de girofle, la poudre de café, la cannelle et les feuilles de pandanus. Et comment le faire? D'abord, mélanger les ingrédients tels que la poudre de café, le gingembre, la cannelle, les clous de girofle, le feuille de pandanus et le sucre dans les eaux, et ensuite les faire bouillir jusqu'à ébullition. Retirer le ragoût et filtrer les eaux. Le café Rarobang est prêt à être servi à chaud. En complément, saupoudrer dessous les noix rôties. Thank you. Bien qu'Ambon ne soit pas une région de production de café, le café de Rarobang est une boisson typique de Ambon. Il est bien connu par les amateurs de café du pays et de l'étranger. Les ingrédients de base sont le café arabica qui pousse beaucoup dans des régions de l'Indonésie. Cette boisson est le résultat de la modification de la population locale qui mélange les épices typiques de Ambon dans sa présentation. Les boissons au café sont déjà connues pour avoir l'avantage de calmer et leur propre plaisir que dans les autres boissons chaudes. Cependant, selon l'histoire, à travers le café Rarobang, les précurseurs ambonais veulent profiter de plus qu'un délicieux du café. Ils veulent que cette boisson offre également des avantages pour la santé de toute personne qui la boit. Ceci est dérivé des épices qui sont toujours le produit principal dans la région des Moluques. À Ambon, généralement l'après-midi, en se détendant après le travail et accompagné d'une tasse de café Rarobang, tout en écoutant de la musique ambonaise, ils se réunissent et détendent dans les cafés. Boire du café de Rarobang dans l'après-midi semble devenir une activité intéressante. Chers amis, voilà l'édition de magazine culturel pour aujourd'hui, intitulée « Le café de Rarobang à Ambon, les Moluques ». Si vous avez l'occasion de visiter la ville d'Ambon et voulez sentir la sensation de boire du café qui est différent du café en général, goûtez le café Rarobang. Bon, chers amis, merci à tous et au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta, et je suis ravie de vous retrouver dans la rubrique L'Indonésie en couleurs. Dans cette édition, je vais vous donner des informations sur l'Indonésie a remporté des prix lors de l'événement organisé par l'OMT en Espagne. Assurez-vous de rester ici avec nous à www.venus.id. La fierté vient du monde du tourisme en Indonésie. Le 17 janvier 2018, l'Indonésie a de nouveau remporté un prix dans le domaine de l'innovation touristique internationale auprès de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. L'Indonésie, représentée par The Sumba Hospitality Foundation et Triponyo.com, ont réussi à devenir les meilleurs dans la catégorie des organisations non gouvernementales. Triponyo.com et The Sumba Hospitality Foundation sont devenus le premier et troisième gagnant. Ces représentants indonésiens doivent rivaliser avec des représentants du Mexique et de l'Italie. Obtenant le prix selon le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, l'Indonésie a obtenu beaucoup d'avantages. Le premier est étalonnage qui est en train de calibrer si le fait est approprié ou non. Deuxièmement, la crédibilité de l'élévation du nom de la nation. Et le troisième est la confiance qui renforce la confiance de l'Indonésie. TripOnYou est une application de réservation de voyage avec un voyage assez unique. L'application relie les touristes locaux et étrangers aux personnes locales qui ont des voyages variés. Non seulement en raison des voyages uniques, cette communauté permet aux populations locales de générer plus d'emplois et de revenus. Tandis que la Fondation Sumba Hospitality est une fondation qui se concentre sur l'action sociale sous la forme de l'éducation dans le sud-ouest du district de Sumba, Nusa Tenggara Est. Elle fournit une éducation sous la forme d'une compréhension de l'industrie du tourisme pour les communautés locales par l'école hôtelière. L'OMT a été créée en 1957 et les prix de l'OMT ont été lancés depuis 2003. Les prix de l'OMT sont un prix décerné aux personnes et aux projets qui démontrent l'innovation pour améliorer et développer un monde touristique durable conformément au Code mondial d'éthique pour le tourisme et objectifs de développement durable. Dans l'événement de cette année, 55 pays dans le monde ont envoyé 128 innovations dans le domaine du tourisme pour concourir 6 prix. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs, pour commencer notre édition, je vous présente une chanson dont le titre Mine ou Le Mien. Bonne écoute et restez ici avec nous à voynews.id.
Wajahmu, hatimu telah lama ku dambakan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku berdebar rasa di hatiku. Diriku tersipu malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I. You and I. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Milikku. Oh, oh. Senyummu, candamu selalu dapat ku bayangkan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Selalu bersama, cintaku selamanya jika kau.
to the sky, forever you and I, you and I. Dan kita kan selalu bersama, cintaku selamanya jika kamu milikku, kau milikku.
Voilà la chanson intitulée Mine, ou le mien, qui est chantée par Petra Sirombing. Le talent de Petra vient de sa famille qui connaît bien la musique. En plus de chanter, Petra sait aussi jouer d'instruments de musique comme la guitare et le piano. Cette chanson est présentée dans le deuxième album de Petra intitulé Pili Sadiaku ou Choisis-moi, qui a été publié en 2012. Cette chanson raconte d'un homme qui adore tellement son amant et qu'il veut que son amant soit toujours près de lui, pour toujours. Cette chanson a été publiée en deux langues, à savoir l'indonésien et l'anglais. Chers auditeurs, avant de parler plus loin de Petra, je vous présente une chanson intitulée Nirmala. Bonne écoute!
Thank you. better.
Voilà la chanson de Petra Siomen dont le titre est Nirmala. Cette chanson a été lancée en mai 2017. Cette chanson décrit deux personnes qui n'avaient jamais vu les défauts et les lacunes de son partenaire. C'est ce dit auditis. Avant de terminer notre programme ce soir, on écoute deux chansons de Petra Siomen intitulées Istimewa ou Spécial. Et inilah cintaku ou voici mon amour. Bonne écoute et à demain.
Hanya dia yang mengerti aku. Cuma dia yang bisa luluhkan hatiku. Oh, hanya dia yang manjakan aku. Cuma dia yang ada di dalam hati. Sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa. Hanya dia yang tahu diriku. Hanya dia yang baca pikiranku. Oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya. Bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Semua dari hatiku sepenuh. Sepenuhnya sungguh tulus cintaku kepadamu.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Lengkapiku, kamu tahu yang ku mau. Telah ku coba cari yang lain, cuma kamu yang ku mau. Inilah cintaku. Tetap kamu yang ku mau. Oh, oh, inilah cintaku.
Voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Masihkah padamu sedikit bayang diriku, akankah suatu saat kau berubah pikiran dan kembali. Masihkah padamu sedikit cinta untukku, akankah suatu saat kau kembali kepadaku. Memang kita telah jauh rasanya, memang kita sudah tak bersama. Jika memang kita ditakdirkan untuk bersama selamanya, cinta takkan kemana-mana. Cinta takkan kemana-mana. Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Akankah suatu saat kau kembali kepadaku? Memang kita telah jauh rasanya, memang kita sudah tak bersama. Jika
thank you. sekedip lampu kuning di setiap sikapmu. Jelaskan padaku, satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Oh, 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 kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.